Chers amis auditeurs, auditrices de Radio Maria France, nous nous retrouvons pour cette actualité du pape François. Dans cette actualité, nous allons revenir sur les paroles du Saint-Père après la prière de l'Angélus de dimanche dernier. Nous dirons également quelques mots sur la situation dramatique au Yémen. Également les quelques extraits de la belle catéchèse du Saint-Père qu'il a laissée lors de la solennité Saint-Pierre et Saint-Paul. Quelques déclarations, également extraits de déclarations données par Monseigneur Aupetit, notamment à propos du projet de loi bioéthique dans cette actualité. Quelques mots également sur la situation en Israël, entre Israël et la Palestine, et aussi sur la cathédrale Sainte-Sophie à Istanbul. Bonjour à tous, bienvenue dans l'actualité du pape François. Et nous commençons donc, comme annoncé, par ces paroles du pape François après la prière de l'Angélus. Le thème: un cœur disponible et non pas attaché de façon désordonnée, même à des membres de la famille. Voilà ce que le pape François a souhaité aux baptisés, en commentant notamment, bien sûr, l'évangile de ce dimanche dernier, dimanche 28 juin. C'était donc avant l'Angélus et depuis la fenêtre du bureau qui donne place Saint-Pierre. Oui, le Saint-Père qui a donc commenté l'évangile de ce jour, tiré donc de l'évangile de Saint-Matthieu, chapitre 10, versets 37-42, passage qui fait résonner avec force l'invitation à vivre dans la plénitude et sans hésitation notre adhésion au Seigneur. Oui, Jésus demande à ses disciples de prendre au sérieux les exigences évangéliques, même lorsque cela nécessite sacrifice et effort. Et une des premières demandes, la première même demande exigeante que Jésus adresse à qui le suit, est de placer l'amour envers lui au-dessus des affections familiales. Il est dit dans le texte « Qui aime son père ou sa mère, son fils ou sa fille plus que moi, n'est pas digne de moi. » Alors le Saint-Père nous rappelle que Jésus n'entend pas bien sûr sous-estimer l'amour des parents et des enfants, mais il sait que les liens de parenté, s'ils sont placés à la première place, peuvent s'écarter du vrai bien. Quand l'amour pour les membres de la famille est plus grand que l'amour qui doit être porté envers lui, le Christ, eh bien cela ne va pas, nous dit le Saint-Père. Et nous pourrions tous apporter de nombreux exemples à cet égard. Sans parler d'ailleurs des situations où les affections familiales se mêlent à des choix opposés à l'Évangile. Quand, au contraire, l'amour des parents et des enfants est animé et purifié par l'amour du Seigneur, il devient alors pleinement fécond et il produit des fruits de bien dans la famille elle-même et bien au-delà. C'est dans ce sens-là que Jésus dit cette phrase. Le Saint-Père qui continue à commenter ce passage de l'Évangile, Jésus qui dit ensuite à ses disciples « Celui qui ne prend pas sa croix pour me suivre n'est pas digne de moi. » Il s'agit de le suivre sur le chemin qu'il a lui-même suivi, sans chercher de raccourcis. Il n'y a pas de véritable amour sans croix, c'est-à-dire sans prix à payer en personne. Tant de mamans le disent, tant de papas qui le vivent, qui se sacrifient tellement pour leurs enfants et supportent de vrais sacrifices, des croix, parce qu'ils aiment. Et portée avec Jésus, nous rappelle le Saint-Père, la croix n'est pas effrayante, car il est toujours à nos côtés pour nous soutenir à l'heure de l'épreuve la plus dure, pour nous donner force et courage. Il est inutile de s'agiter pour préserver notre vie dans une attitude craintive et égoïste. Jésus avertit « Quiconque aura gardé sa vie pour lui la perdra, et quiconque aura perdu sa vie à cause de moi, c'est-à-dire par amour de Jésus, par amour du prochain, pour le service des autres, la trouvera. » C'est le paradoxe de l'Évangile. La plénitude de la vie et de la joie se trouve en se donnant soi-même pour l'Évangile et pour nos frères et sœurs. avec ouverture, accueil et bienveillance. Et en agissant ainsi, conclut le Saint-Père, nous pouvons faire l'expérience de la générosité et de la gratitude de Dieu. Et Jésus nous le rappelle, « Celui qui vous accueille, m'accueille. Celui qui aura donné à boire à l'un de ses petits, même un seul verre d'eau fraîche, ne perdra pas sa récompense. » Oui, la gratitude généreuse de Dieu le Père tient compte du moindre geste d'amour et de service rendu à ses frères. Et c'est une reconnaissance contagieuse, dit le pape François, qui aide chacun de nous à avoir de la gratitude envers ceux qui s'occupent de nos besoins. La gratitude, la reconnaissance, c'est d'abord un signe de bonne éducation, mais c'est aussi un signe distinctif du chrétien. C'est un signe simple, mais authentique du royaume de Dieu, qui est un royaume d'amour gratuit et reconnaissant. Et dans cette actualité du Saint-Père, un point sur la situation au Yémen. Je cite « Je prie les responsables de comprendre la gravité de la situation du pays ». Et Radio Vatican a rapporté le 27 juin les paroles du vicaire apostolique d'Arabie méridionale, Mgr Paul Hinder, qui s'alarme de l'absence de trêve stable dans un Yémen en guerre depuis 2015, où la population est affamée et fatiguée. Il a confié d'ailleurs le pays à la prière de la Vierge Marie sous le vocable de « Reine de la paix ». Devant l'impuissance humaine, il confie la population à l'intercession de la Vierge Marie, Reine de la paix. Voilà quelques mots donc de Mgr Paul. « Pour ma part, je ne peux qu'invoquer la Reine de la paix pour que vous priez pour le Yémen, que ceux qui ont des responsabilités comprennent la gravité et la force de la situation intérieure et extérieure du Yémen. Je ne vois pas comment nous pouvons nous en sortir aujourd'hui. Il existe de nombreuses organisations qui essaient de faire tout leur possible pour la population. C'est le drame de ce pays, un pays brisé. Il est donc essentiel d'assurer la sécurité et la stabilité pour que les ONG qui collaborent avec le Croissant Rouge, le seul à travailler activement jusqu'à présent, puissent continuer d'être actives à tout égard. » Oui, Radio Vatican qui fait un constat dramatique, l'effondrement économique total. C'est ce à quoi le Yémen est confronté en raison de coupes importantes dans l'aide humanitaire internationale, du ralentissement des transferts de fonds, de l'affaiblissement de la monnaie et de la pandémie de coronavirus. Plus de 2 millions d'enfants, dénonce l'UNICEF, sont mal nourris, et 6 600 enfants de moins de 5 ans pourraient mourir de causes évitables d'ici la fin de l'année, dans la pire crise humanitaire du monde. Alors, selon Radio Vatican, qui rapporte cette réaction de Mgr Paul Hinder, selon les informations dont je dispose, et je le cite, ce n'est pas tant l'argent qui manque, les pays voisins et d'autres pays sont prêts à donner, ou ont déjà donné des milliards, le principal problème est le manque de structures et de réseaux fiables dans le pays pour faire passer l'aide. Mgr Hinder qui déplore la destruction des installations sanitaires du pays et l'insécurité qui rend le transport difficile, parfois impossible. Et la division du pays en au moins trois parties, de juridictions presque différentes, rend encore plus difficile une aide efficace et coordonnée. Sans une trêve entre les belligérants, toutes les opérations humanitaires resteront au moins partiellement paralysées. Qu'est-ce qui arriverait si on priait beaucoup plus et si on murmurait beaucoup moins, avec la langue un peu tranquillisée? Voilà ce que s'est demandé le pape François en célébrant la messe pour la solennité des Saint-Pierre et Saint-Paul, c'est donc ce 29 juin. Oui, de nombreuses portes qui séparent s'ouvriraient, plusieurs chaînes qui paralysent tomberaient. Comme de tradition, le pape a béni les palliums qui seront remis par les nonces apostoliques aux archevêques métropolitains nommés dans l'année, ainsi que le pallium du nouveau doyen du collège cardinalis, le cardinal italien Giovanni Battista Re, qui a été élu le 18 janvier. Voici quelques mots de cette belle homélie du Saint-Père lors de cette solennité. Le pape François qui a parlé d'abord de l'unité. « Oui, nous célébrons, nous dit-il, deux figures très différentes. Pierre, qui était un pêcheur, qui passait ses journées entre les rames et les filets, Paul, un pharisien cultivé, qui enseignait dans les synagogues. Alors lorsqu'ils partirent en mission, Pierre s'adressa aux Juifs, Paul aux païens. Et quand leurs chemins se sont croisés, ils discutèrent de façon vive, comme Paul d'ailleurs n'a pas honte de le raconter dans une de ses lettres, notamment l'Épître aux Galates. Ils étaient donc, nous dit le Saint-Père, deux personnes des plus différentes, mais ils se sentaient frères, comme dans une famille unie, où on discute souvent, mais où on s'aime toujours. Cependant, la familiarité qui les liait ne provenait pas des inclinations naturelles, mais du Seigneur. Il ne nous a pas demandé de nous plaire, mais de nous aimer. C'est lui qui nous unit, sans nous uniformiser. Il nous unit dans les différences. Oui, l'unité, rappelle le Saint-Père, c'est un principe qui s'active par la prière, parce que la prière permet à l'Esprit-Saint d'intervenir, d'ouvrir à l'espérance, de réduire les distances, de rester ensemble dans les difficultés. Alors nous sommes tellement habitués à critiquer, voire parfois à insulter les responsables. C'est inutile, nous rappelle le Saint-Père, inutile et même fastidieux, que les chrétiens perdent le temps, du temps, à se lamenter du monde, de la société, de ce qui ne va pas. Les lamentations ne changent rien. Rappelons-nous que les lamentations sont la deuxième porte fermée à l'Esprit-Saint, comme le Saint-Père d'ailleurs l'avait dit le jour de la Pentecôte. La première, c'est le narcissisme, la deuxième, le découragement, le troisième, le pessimisme. Le narcissisme, rappelle le Saint-Père, t'amène au miroir, à te regarder continuellement. Le découragement, aux lamentations. Le pessimisme, dans le noir, dans l'obscurité. Ces trois attitudes ferment la porte à l'Esprit-Saint. Alors nous, aujourd'hui, nous pouvons nous demander, gardons-nous notre unité par la prière, notre unité de l'Église? Prions-nous les uns pour les autres? Qu'est-ce qui arriverait si on priait beaucoup plus et si on murmurait beaucoup moins, avec la langue un peu tranquillisée? Et le Saint-Père qui a également rappelé l'importance de prier pour nos dirigeants. Oui, prions car ils ont besoin de la prière. C'est un devoir que le Seigneur nous confie. Le faisons-nous? Ou bien parlons-nous, insultons-nous, et ça s'arrête là. Dieu attend que quand nous prions, nous nous souvenions aussi de celui qui ne pense pas comme nous, de celui qui nous a fermé la porte au nez, de celui à qui nous avons de la peine à pardonner. Seule la prière défait les chaînes, comme à Pierre, seule la prière aplanit la voie vers l'unité. Deuxième thème abordé par le Saint-Père dans cette homélie, c'est la prophétie. Unité et prophétie. Les apôtres, nous dit le Saint-Père, ont été provoqués par Jésus. Pierre s'est entendu demander « Toi, qui dis-tu que je suis ?» À ce moment, il a compris que les opinions générales n'intéressent pas le Seigneur, mais le choix personnel de le suivre. De même, la vie de Paul a changé après une provocation de Jésus. « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu ? » Le Seigneur l'a secoué du dedans. Plus que de le faire tomber à terre sur le chemin de Damas, il a fait tomber sa présomption d'homme religieux et respectable. Ainsi, Saul le fier est devenu Paul, Paul qui signifie « petit ». Alors après ces provocations, après ces retournements de vie, suivent les prophéties. « Tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon Église. » Et à Paul, « Cet homme est l'instrument que j'ai choisi pour faire parvenir mon nom auprès des nations. » Donc, rappelle le Saint-Père, la prophétie naît lorsqu'on se laisse provoquer par Dieu, non pas quand on gère sa tranquillité et qu'on contrôle tout. Elle ne naît pas de mes pensées, cette prophétie. Elle ne naît pas de mon cœur fermé. Elle naît si nous nous laissons provoquer par Dieu. Quand l'Évangile renverse les certitudes, la prophétie jaillit. Seul celui qui s'ouvre aux surprises de Dieu devient prophète. Et les voilà, Pierre et Paul, des prophètes qui voient plus loin. Pierre qui le premier proclame que Jésus est le Christ, le Fils du Dieu vivant. Paul anticipe la fin de sa vie. « Je n'ai plus qu'à recevoir la couronne de la justice. » Le Seigneur, le juste juge, me la remettra. Le pape François de rappeler qu'aujourd'hui, oui, nous avons besoin de prophéties, mais de vraies prophéties. Nous n'avons pas besoin de beaux parleurs qui promettent l'impossible, mais de témoignage que l'Évangile est possible. Nous n'avons pas besoin de manifestations miraculeuses. Le Saint-Père d'ajouter que ça lui fait mal lorsqu'il entend proclamer « Nous voulons une Église prophétique ». Bien. Réponse du Saint-Père, « Que fais-tu pour que l'Église soit prophétique ? Il faut des vies qui manifestent le miracle de l'amour de Dieu, non de puissance, mais de cohérence, non de parole, mais de prière, non de proclamation, mais de service. Tu veux une Église prophétique ? Commence à servir et tais-toi. Non de théorie, mais de témoignage. Nous n'avons pas besoin d'être riches, mais d'aimer les pauvres. Non de gagner pour nous-mêmes, mais de nous dépenser pour les autres. Non du consentement du monde, se sentir bien avec tout le monde, non. Ce n'est pas une prophétie, rappelle le Saint-Père. Nous avons besoin de la joie pour le monde à venir. Non de ces projets pastoraux qui semblent avoir en soi leur efficacité, comme si c'était des sacrements, des projets pastoraux efficaces, non. Nous avons besoin de pasteurs qui offrent leur vie, des amoureux de Dieu. Ainsi, Pierre et Paul ont annoncé Jésus en amoureux. Pierre, avant d'être mis en croix, ne pense pas à lui-même, mais à son Seigneur, et se considérant indigne de mourir comme lui, demande d'être crucifié la tête en bas. Paul, avant d'être décapité, pense seulement à donner sa vie et écrit qu'il veut être offert en sacrifice. Ceci est une prophétie, non des paroles, c'est la prophétie qui change l'histoire. Et en conclusion de cette belle homélie, le pape François, qui nous dit « Chers frères et sœurs, Jésus a prophétisé à Pierre, tu es Pierre et sur cette pierre, je bâtirai mon Église. Et de même pour nous, il y a une prophétie semblable. Elle se trouve dans le dernier livre de la Bible, là où Jésus promet à ses témoins fidèles un caillou blanc et inscrit sur ce caillou un nom nouveau. Comme le Seigneur a transformé Simon en Pierre, de même il appelle chacun de nous pour faire de nous des pierres vives avec lesquelles construire une Église et une humanité rénovée. Alors il y a toujours ceux qui détruisent l'unité, qui éteignent la prophétie. Mais le Seigneur croit en nous et il nous demande, « Toi, veux-tu être bâtisseur d'unité ? Veux-tu être prophète de mon ciel sur la terre ?» De conclure le pape François, « Frères et sœurs, laissons-nous provoquer par Jésus et trouvons le courage de lui dire, « Oui, je le veux. » Et voilà l'intention de prière confiée par le Saint-Père à tous les catholiques pendant ce mois de juillet 2020. Oui, prions pour que les familles d'aujourd'hui soient accompagnées avec amour, respect et conseil. Alors, les audiences générales, il n'y en aura pas. Comme chaque été, oui, le pape François fait une pause dans ses rendez-vous publics. Et les audiences générales du mercredi matin sont donc ainsi suspendues durant tout le mois, à partir donc du 1er juillet. Alors, ces rendez-vous hebdomadaires où le pape délivre une catéchèse, et en ce moment c'était donc sur le thème de la prière, ces catéchèses sur le thème de la prière devraient donc reprendre dès le mois d'août. Elles ont lieu d'ordinaire sur la place Saint-Pierre, ou salle Paul VI, en hiver. Mais pendant l'été, le Saint-Père va continuer à présider la prière de l'Angélus chaque dimanche à midi. Aucun voyage apostolique n'est prévu, en tout cas prochainement. Monseigneur Aupetit s'élève contre le retour du projet de loi bioéthique à l'Assemblée nationale française. C'est un des titres de Radio Vatican en français. Oui, en France, les députés ont commencé lundi 29 juin l'examen en deuxième lecture du projet de loi de bioéthique qui ouvre l'accès à la procréation médicalement assistée aux couples de femmes et aux femmes seules. Alors, dans une tribune parue dans le Figaro, l'archevêque de Paris, Mgr Michel Aupetit, dénonce un projet injuste et inégalitaire que le gouvernement semble considérer comme une priorité alors que le pays sort de 3 mois de confinement. Radio Vatican ajoute que Mgr Michel Aupetit, archevêque de Paris, ne mâche pas ses mots dans cette tribune qui a été publié mardi 30 juin donc dans le quotidien Le Figaro. Le projet de loi de bioéthique suscite son indignation, aussi bien quant au fond qu'en ce qui concerne le calendrier des débats parlementaires. Radio Vatican fait d'ailleurs observer que l'empressement des députés est pointé du doigt et que l'archevêque de Paris invite au contraire à tirer les leçons du confinement, soulignant à juste titre la situation dans les maisons de retraite des personnes âgées et la prétendue égalité revendiquée par des personnes qui se trouvent dans des situations particulières et auxquelles s'adressent ces lois bioéthiques. Pour Radio Vatican, l'archevêque de Paris relève aussi une certaine obsession à faciliter l'élimination des enfants dans le ventre de leur mère en faisant de l'IVG une priorité en temps de confinement. Alors même que les urgences cardiovasculaires restaient en souffrance pour favoriser l'accueil des patients atteints par le Covid-19. Il remarque, Mgr Opetit, que cette obsession est relayée par certains amendements discutés actuellement en commission spéciale de l'Assemblée nationale. La pandémie, relève la même source, a rappelé notre commune vulnérabilité, la nécessité de revenir à une certaine sobriété, la richesse en même temps que la fragilité des relations familiales. Et pourtant, nous voici engagés de nouveau, tête baissée, dans le bouleversement des relations généalogiques qui structurent la personne, dans la banalisation des embryons humains sélectionnés, analysés et jetés comme de vulgaires produits consommables. Ainsi, pour Mgr Opetit, ce choix de favoriser l'industrie procréatique montre bien les raisons mercantiles qui fondent ce projet. Les nouvelles du Vatican soulignent aussi l'invitation de l'archevêque à faire passer la dignité humaine avant les intérêts financiers. Le choix d'ouvrir en grand le marché des enfants en dissociant l'assistance médicale à la procréation des difficultés à concevoir est une atteinte grave à la dignité humaine. C'est bien la société de consommation qui pousse encore et toujours le désir des adultes sans aucune considération des conséquences sur les générations futures, jusqu'à leur faire violence. Le prélat, ajoute Radio Vatican, lance donc l'alerte face à un projet de loi qui touche à l'essence même de notre humanité et porte en lui-même des basculements considérables, modifiant gravement et dangereusement les fondements de ce que notre civilisation a construit pour le respect de l'homme, de sa dignité, de sa vie et de sa santé. Alors que la pandémie a manifesté l'exigence de vaincre nos égoïsmes par l'engagement dans la solidarité, le respect de l'égale dignité de tout être humain demeure une priorité. Il faut relancer le commerce et l'industrie, mais pas au prix de la dignité de l'être humain. L'archevêque de Paris espère donc du courage et de la lucidité de la part des députés afin de renverser la logique d'un toujours plus qui accumule les dettes financières et soulève aussi des questions existentielles. Pour cela, conclut-il, il est urgent de ne pas se plier aux pressions idéologiques ou marchandes qui se voient la peine sous des slogans péremptoires. Et nous partons dans cette actualité à Istanbul, où l'éventuelle reconversion en mosquée du complexe monumental de Sainte-Sophie à Istanbul pousserait des millions de chrétiens dans le monde entier contre l'islam. Tel est le dramatique cri d'alarme lancé par le patriarche œcuménique de Constantinople, Bartholomée Ier. Oui, le Conseil d'État turc doit tenir le 2 juillet une audience sur la possibilité d'ouvrir à nouveau au culte islamique, le complexe de Sainte-Sophie, abrogeant la décision par laquelle, en 1934, le gouvernement turc avait converti en simple musée l'ancienne basilique byzantine devenue mosquée après la chute de Constantinople en 1453. Alors Fidesz se fait l'écho des paroles fortes du patriarche œcuménique dans l'homélie pour la divine liturgie du 30 juin, en l'église des saints apôtres du quartier de Ferikoy à Istanbul. Oui, pour le patriarche, en effet, en vertu de son caractère sacré, Sainte Sophie est un centre de vie dans lequel s'embrassent l'Orient et l'Occident, et son éventuelle reconversion en lieu de culte islamique serait cause de rupture entre ces deux mondes entre deux mondes au XXIe siècle, il est absurde et dommageable que Sainte-Sophie, de lieu qui maintenant permet à deux peuples de se rencontrer et d'admirer sa grandeur, puisse de nouveau devenir un motif d'opposition et d'affrontement. Le Saint-Siège invite Israéliens et Palestiniens à une négociation directe et à restaurer la confiance pour ne pas mettre la paix en danger. Un communiqué de la salle de presse du Saint-Siège indique en effet que le mardi 30 juin, le cardinal Pietro Parolin, secrétaire d'État, avait rencontré à Rome les ambassadeurs des États-Unis et d'Israël près le Saint-Siège. Le cardinal, qui a voulu exprimer la préoccupation du Saint-Siège à propos d'éventuelles actions unilatérales qui pourraient mettre en danger la recherche de la paix entre Israéliens et Palestiniens et la délicate situation du Moyen-Orient. Le Saint-Siège a redit sa position favorable à l'existence de deux États. Comme déjà indiqué le 20 novembre 2019 et le 20 mai 2020, le Saint-Siège redit que l'État d'Israël et l'État de Palestine ont le droit d'exister et de vivre en paix et en sécurité à l'intérieur de frontières reconnues internationalement. Le Saint-Siège qui encourage donc pour cela une négociation directe, qui invite aussi les parties en présence à travailler pour rouvrir la voie de la négociation directe sur la base des importantes résolutions des Nations Unies. Il insiste également sur la restauration de la confiance, souhaitant que cette négociation soit facilitée par des mesures qui servent à restaurer la confiance mutuelle. Voilà, chers amis auditeurs, auditrices de Radio Maria France, c'était donc l'actualité du pape François de cette semaine. Je vous retrouve donc avec joie jeudi prochain, même heure, 17h. Au revoir à tous.